L'homme que nous allons recevoir dans quelques minutes est un des plus grands scientifiques de la planète. Le magazine Times l'a classé récemment parmi les 100 personnalités mondiales les plus influentes. Sa spécialité, la génétique évolutionniste, qui a bouleversé la paléanthropologie en ouvrant la voie à des découvertes fondamentales sur nos origines humaines. Cet homme, c'est le Suédois Svante Paabo. Il a prouvé qu'Homo sapiens et Néandertal s'étaient bien croisés et que nous portons en nous de l'ADN de notre ancêtre néandertalien. Cette découverte, il la raconte dans un livre, Néandertal à la recherche des génomes perdus, qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. J'ai rencontré Svante Paabo il y a quelques jours lors de sa venue à Paris et je vous propose cet entretien exceptionnel dans un instant. Le pergélisol peut être en train de fondre plus vite que prévu et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, le pergélisol ou permafrost, ce sol constamment gelé de l'hémisphère nord, le sera bientôt de moins en moins et les conséquences climatiques sont importantes. On vous explique dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Et c'était Stéphanie Texier qui réalise aujourd'hui notre Tête au Carré.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Svante Paabo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. En 2010, avec vos collaborateurs, vous êtes l'homme qui a réussi un exploit qui autrefois était considéré comme impossible, celui d'avoir séquencé l'ADN de Néandertal et d'avoir dans le même temps révélé au monde que nous possédions entre 1 et 4% d'ADN de Néandertal. Vous avez donc éclairé l'histoire de notre humanité et pourtant vous-même, vous n'y croyiez pas à l'époque sur cette probabilité justement de ce métissage entre Néandertal et l'homme moderne. Ça, c'est un des aspects de la science. Ça veut dire qu'à chaque instant, elle peut venir chambouler toutes les certitudes.
Well, it was really progressively as we started the Neanderthal genome and compared it to present-day genomes.
Ça s'est fait graduellement, en fait, mais à mesure qu'on arrivait à cartographier ce génome, il nous est apparu que des humains modernes portaient en eux un patrimoine génétique aussi infime soit-il, qui venait de l'homme de Néandertal, et cela est vrai pour tous les humains modernes, sauf sur le continent africain, en Afrique subsaharienne.
Et ça, c'est une véritable révolution scientifique.
Well, it was a great surprise to me.
Ça a été une grande surprise pour moi, déjà, car jusqu'alors, on avait pu étudier seulement l'ADN mitochondrial, qui n'est qu'une partie infime du génome et qui se transmet uniquement par les femmes, de femme à femme. Et cet ADN mitochondrial néandertalien ne se retrouvait pas dans les humains modernes. Donc voilà pourquoi j'ai pensé qu'il n'y avait pas eu de métissage. Mais après, la vérité, les preuves scientifiques me sont apparues et j'ai donc bien dû admettre qu'il y avait eu des croisements, un métissage entre les hommes de Néandertal et les humains modernes.
Et donc, vous avez fait basculer l'histoire de nos origines dans une nouvelle justement narration. On va évoquer votre parcours, c'est ce que vous racontez dans ce livre, Néandertal à la recherche des génomes perdus. Et c'est l'objet de notre discussion dans un instant. Pour cet entretien exceptionnel, Svante Paabo, à tout de suite.
La une du climat. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et comme tous les lundis, nous retrouvons Hervé Kempf, journaliste pour Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On commence avec un petit tour de l'actualité climatique. Quelles sont les nouvelles cette semaine?
Une semaine de négociations à Bonn jusqu'au 23 octobre, vendredi dernier, décevante. On se retrouve avec un texte lourd, long et une radicalisation entre les pays du Sud et les pays du Nord. Les pays du Sud ont dit « vous ne nous prenez pas en compte et ça ne pourra pas se passer comme ça ». Le pronostic pour l'accord de Paris s'assombrit un petit peu.
Ouais, ça c'est vraiment de mauvais augure, effectivement. À la une de la science aujourd'hui, la fonte accélérée du pergélisol, c'est le thème aujourd'hui.
Le changement climatique est un sujet très très important à l'heure actuelle. Le permafrost a la capacité de libérer de grandes quantités de dioxyde de carbone et de le réinjecter dans le système. Et nous essayons de comprendre, les ingénieurs essayent de comprendre comment cela impactera le monde. Bien sûr, ici, il fait très froid, mais aussi ça sent assez mauvais. En fait, ça pue comme un vieux fromage.
Voilà, et c'était la voix du journaliste de la BBC, Matt McGrath, que vous venez d'entendre dans une interview donnée la semaine dernière à la BBC. Vladimir Romanovski, un des grands experts des sols gelés de l'hémisphère nord, s'inquiétait des conséquences de la fonte rapide du pergélisol. Pour comprendre pourquoi le devenir de ces terres gelées est absolument crucial pour le climat, nous sommes au téléphone avec vous, Christelle Marlin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes géochimiste et professeur à l'Université Paris-Sud. Alors Hervé, que dit exactement ce professeur Romanovski de si inquiétant ?
Eh bien, ce que dit ce professeur Romanovski, qui est aussi le directeur du réseau international d'études sur le permafrost, c'est que it's unbelievable, c'est incroyable ce qu'il observe. Il y a quelques années, il a commencé ses études avec son équipe de mesure de la fonte du pergélisol, ou du permafrost, comme on dit en anglais.
C'est la même chose, hein.
C'est la même chose. Mais voilà, permafrost c'est anglais, pergélisol c'est français. Et ce qu'il dit, c'est que cela fond beaucoup plus rapidement qu'il ne le pensait. Il dit, si on continue, ça a diminué de moins 8 degrés centigrades Celsius quand il a commencé sa série d'études, et on est déjà à moins 2,5 degrés Celsius en dessous de zéro, donc ce permafrost se fond rapidement.
Alors ça fait pas l'objet d'une publication pour l'instant, mais ces déclarations évidemment ont eu un écho important.
Tout à fait, parce qu'en fait il y a énormément de recherches sur ce thème. Il y a tout à l'heure un article qui paraît d'un autre spécialiste, Monsieur Schur, dans Nature Climate Change, sur la fonte aussi de ce permafrost. On n'en parle pas parce qu'on respecte l'embargo. Il y a aussi une étude, un point par le Woodhull Research Center récemment. Il y a un laboratoire franco-québécois qui travaille très attentivement à Cujuarapic, au nord du Québec. Donc c'est une grande préoccupation, et le message essentiel que l'on peut retenir, c'est que cela va plus vite qu'on ne pouvait le craindre, et ça pourrait avoir des conséquences importantes.
Observation convergente. Axel.
Christelle Marlin, là on parle, en tout cas Monsieur Romanovski parle du pergélisol de l'Alaska. Il existe beaucoup de types de sols gelés dans l'hémisphère nord.
Alors oui, tout à fait. Effectivement, le pergélisol n'existe pas simplement en Alaska. Il concerne tous les territoires, en tous les cas dans l'hémisphère nord, qui sont dans la zone subarctique, donc pas loin du cerf polaire jusqu'aux territoires les plus septentrionaux. Donc on va en retrouver le pergélisol le plus important est celui qu'on observe en Sibérie, puisque ça représente presque 50% du pergélisol de l'hémisphère nord, un tiers au Canada, et puis le reste distribué entre la Chine, la Mongolie, la Norvège et les autres territoires de haute montagne.
Alors ce qui inquiète apparemment tout le monde, c'est ce relargage de dioxyde de carbone et de métal piégé dans le pergélisol, donc évidemment problème avec sa fonte. D'où viennent ces gaz exactement, Christelle Marlin ?
Oui, alors en fait, dans l'article que vous avez cité initialement, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, méthane et CO2, mais il faut bien imaginer que ce n'est pas du relargage directement de ces gaz, puisqu'il s'agit en fait de relargage de matière organique, donc issue des débris animaux et végétaux, piégés initialement dans la glace et qui, avec la fonte du pergélisol, va se retrouver libérés et être ainsi impliqués dans des réactions biogéochimiques qui vont conduire à la formation de méthane et de CO2 dans des proportions variables.
Est-ce que tout est libéré dans l'atmosphère directement ?
Alors non, tout n'est pas libéré dans l'atmosphère, du moins c'est ce que les scientifiques montrent, c'est que oui, il pourrait y avoir une libération sur place, mais aussi également un transport via les cours d'eau et les fleuves de cette matière organique vers les zones côtières, vers l'océan Arctique, en l'occurrence il s'agit des grands fleuves sibériens, et c'est donc cette matière organique qui pourrait continuer à se dégrader dans les sous-sols océaniques et libérer, je dirais, avec une sorte de bombe à retardement, finalement, ce méthane, mais vraiment dans de nombreuses décennies, en tous les cas, on l'espère.
D'accord. Donc, Christelle Marlin, vous, justement, il faut le préciser, vous travaillez sur l'île du Spitsberg, au nord de la Norvège, et vous étudiez en particulier les eaux d'écoulement de ces sols gelés. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ?
Alors en fait, on travaille depuis une vingtaine d'années avec des collègues de l'université de Besançon, avec un soutien de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, sur les conséquences du réchauffement climatique sur les différentes composantes de la cryosphère continentale. Alors cryosphère,
oui, qu'est-ce que c'est
toutes les glaces, c'est toutes les glaces, les glaciers et en particulier aussi le pergélisol qu'il faut absolument intégrer, je dirais, dans les cycles hydrologiques. Donc on va regarder en particulier comment ces relations entre les glaciers et les cours d'eau sont modifiés avec le réchauffement climatique et l'arrivée en fait d'un stockage d'eau et de soluté d'éléments dissous plus importants qui va s'opérer dans ces zones nouvellement déglacées au-dessus du pergélisol.
Hervé Kemps, ce qu'il est important de comprendre aujourd'hui, c'est si le pergélisol va fondre vite ou non. C'est ça le plus important.
Oui, d'autant plus que les volumes de carbone stockés dans ces sols gelés, c'est extrêmement important. C'est de l'ordre de 1600 milliards de tonnes de carbone. C'est deux fois plus que le carbone qui est contenu dans l'atmosphère en ce moment. Et il y a une autre source d'inquiétude, c'est déjà une source de carbone, un volume de carbone extrêmement important, et on ne sait pas exactement dans quelle mesure, dans quelle proportion ça va se relâcher d'un côté en CO2 et de l'autre côté en méthane. Le méthane, c'est cette odeur de vieux fromage dont parlait Monsieur Romanowski. Eh bien, le méthane, le problème, c'est qu'il a un potentiel de réchauffement plus de 30 fois équivalent à celui du CO2.
Ouais, donc ces quantités sont effrayantes quand même.
Elles sont très importante.
Oui.
Et ce qui est, essayons de ne pas employer le mot effrayant, mais grave, c'est que l'on pourrait rentrer dans une sorte de cercle vicieux ou de rétroaction positive, c'est-à-dire que du méthane et du CO2 se relâchant de plus en plus du permafrost contribuent à augmenter la température, ce qui contribue à accroître la vitesse de réchauffement et de fonte du pergélisol, qui relâcherait encore plus de CO2 et de méthane. C'est le scénario que craignent les scientifiques.
Et Christelle Marlin, pour terminer peut-être avec un peu d'optimisme, tous les sols gelés ne sont pas exposés de la même façon au réchauffement climatique.
Alors bien sûr que non, parce que tous les sols n'ont pas la même composition, donc ils vont pas relarguer la même quantité de carbone. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur le stock de carbone qui était donc précédemment cité, les 1600 milliards de tonnes de carbone organique, il y en aurait peut-être que 5 à 15% de ce carbone qui pourrait, je dirais, être relargué vers l'atmosphère. Donc ce qui en fait permet de relativiser un peu le processus, même s'il est, je dirais, important, c'est qu'il va rester en deçà du carbone émis par la combustion des énergies fossiles.
Donc beaucoup d'inconnus encore, malgré tout, mais des observations plutôt inquiétantes, je remploie le mot malgré tout, mais c'est vrai que ça laisse présager des choses assez négatives pour l'avenir. Christelle Marlin, merci beaucoup. Et puis Hervé Kemp, on vous retrouve bien sûr avec toute l'équipe de reporters.net à la semaine prochaine. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des nanotubes de carbone retrouvés dans les poumons d'enfants parisiens. Cette découverte est une première. Elle a été faite dans des analyses médicales de 64 enfants asthmatiques. D'après cette étude comparative, les nanotubes découverts ressemblent à la poussière recueillie à la sortie des pots d'échappement. L'impact des nanostructures de carbone sur la santé est encore mal connu, largement débattu chez l'homme. Chez la souris, en revanche, certaines, ils sont associés à des réactions immunitaires similaires à celles provoquées par l'amiante. Au volant, même les commandes vocales nous déconcentrent. Une étude américaine s'est intéressée aux conséquences des nouvelles technologies main libre qui permettent d'utiliser le téléphone ou d'interagir avec l'ordinateur de bord de nos voitures sans lâcher le volant. Les auteurs ont étudié différents modèles de téléphone et de voiture. Leur conclusion est sans appel. Selon eux, un conducteur reste distrait en moyenne 27 secondes après avoir utilisé ses injonctions vocales. Les auteurs suggèrent de limiter leur usage à des périodes d'arrêt ou de faible circulation. Et puis pour terminer, une vieille légende australienne dit que les crocodiles ne dorment que d'un œil. Et bien des scientifiques australiens viennent d'en apporter la preuve. Comme certains oiseaux et mammifères aquatiques, ils peuvent dormir avec une moitié de leur cerveau à la fois. Une forme de sommeil appelée sommeil unihémisphérique. Cette capacité leur permet de garder toujours un œil ouvert, relié au côté éveillé de leur cerveau pour ne rater bien sûr aucune proie. Svante Pebble, l'invité de La Tête au Carré dans un instant pour parler de nos origines humaines.
What miracle of life has come to save us?
New Order sur France Inter avec Restless.
La tête au carré sur France Inter.
Et un invité exceptionnel aujourd'hui dans la tête au carré, Svante Paabo, donc l'homme qui a fait parler l'ADN de Néandertal et qui a révélé que nous avions en nous une part de notre ancêtre préhistorique dans notre ADN. Svante Paabo, vous publiez Au lien qui libère Néandertal à la recherche des génomes perdus. C'est un livre préfacé par notre confrère Jean-Claude Amezen et je signale aux auditeurs que l'entretien étant exceptionnellement enregistré aujourd'hui, on ne pourra pas recevoir vos messages comme d'habitude. Svante Paabo, donc vous êtes généticien évolutionniste, vous êtes à la tête du plus grand Centre allemand d'anthropologie évolutive, l'Institut Max Planck de Leipzig. C'est là que vous avez fait vos découvertes sur Néandertal, dont nous avons tous entendu parler. Votre apport donc à la génétique dans le domaine de la paléoanthropologie a été absolument essentiel. Et grâce à vos techniques, à vos idées, les découvertes ont été très nombreuses ces dernières années. Et pourtant, vous n'avez pas commencé avec les Néandertaliens, c'est ce qu'on apprend en lisant votre livre, mais avec des momies de l'Égypte antique. Votre mère vous amène en Égypte pour la première fois, vous avez 13 ans. Et là, c'est une véritable passion qui naît pour vous et qui vous emmène sur la voie de la science.
Yes, it was really an enormous experience for me.
Oui, ça a été une expérience bouleversante pour moi de visiter les pyramides, visiter la vallée des rois et réaliser qu'il y avait chaque année des momies d'humains, d'animaux qui étaient découverts encore en Égypte et cela m'a conduit à m'inscrire en égyptologie à l'université. Mais j'avais, je crois, une idée très romantique. Je croyais qu'il s'agissait de découvrir des pyramides, etc. Mais en fait, j'ai vu le côté plus ardu, apprendre à décrypter les hiéroglyphes. J'étais un peu déçue. Je me suis alors tournée vers la médecine et la biologie. Mais quand même, je me suis dit que peut-être que je pouvais appliquer les techniques de la science, de la biologie, à l'étude de ces momies égyptiennes.
En tout cas, vous avez eu cette intuition absolument géniale de pouvoir utiliser précisément l'ADN pour éclairer nos origines humaines. Alors, vous racontez votre parcours et vos tout débuts aussi dans la science, Svante Paabo, et vous dites qu'en 1981, vous avez réalisé votre toute première expérience pour essayer d'abord de comprendre si l'ADN pouvait survivre à une très longue période sur des tissus qui, eux, étaient morts. Et donc, dans votre tout premier laboratoire, vous achetez un morceau de foie de veau, c'est ça, pour réaliser cette expérience, comme vous auriez pu le faire sur des momies anciennes.
Well, so at the time, it was a feeling that the DNA was
oui,
a very sensitive molecule.
J'avais l'intuition que l'ADN était une molécule si sensible que la plupart de l'ADN allait se décomposer, se dégrader au bout de quelques heures suivant la mort ou quelques jours au maximum. C'est ce que l'on pensait. Et la grande question, c'était de savoir si de l'ADN pouvait survivre dans des tissus, comme vous le dites, qui étaient complètement secs. Donc je me suis retrouvée à acheter du foie de veau et à le faire sécher au laboratoire, le mettre au four. Et jour après jour, semaine après semaine, on l'a chauffé, on l'a cuit et il restait quand même des petits fragments d'ADN dont on pouvait extraire de l'information. Et ça m'a encouragée à persévérer avec mes vieilles momies.
Et donc vous avez commencé ensuite à examiner des restes d'espèces animales éteintes. Vous racontez tout ça, hein, des paresseux, des loups marsupiaux, des ours des cavernes. Et vous racontez également que vous avez travaillé sur des fragments d'os fossilisés rapportés par Charles Darwin à l'occasion de son voyage sur le Beagle. Alors vous avez eu beaucoup de chance parce que vous avez pu prélever des fragments justement de ces fossiles.
There was with time we came to realize that it was very very hard to work with ancient human remains.
On a fini par comprendre qu'il serait très difficile de travailler sur des restes humains très archaïques parce que ces restes avaient été manipulés par des conservateurs et autres des archéologues et donc ils étaient contaminés par de l'ADN humain. Voilà pourquoi je me suis concentrée sur des animaux éteints, des espèces éteintes récemment, puis après je suis remontée plus en arrière dans le temps et l'un de ces animaux c'était le paresseux terrestre. Des vestiges, des ossements avaient été trouvés par Darwin en Amérique du Sud et rapportés en Europe. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir, au Musée d'Histoire Naturelle de Londres, prélever effectivement des spécimens d'ADN sur ces fossiles de paresseux terrestres.
Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on peut manipuler, quand on a l'autorisation de travailler sur des fossiles qu'a rapporté Charles Darwin lui-même de son voyage?
Yes, it's of course amazing to realize that Darwin himself
oui,
have handled
c'est incroyable
this,
et formidable de se dire que Darwin lui-même avait manipulé ses ossements, la peau toute desséchée qui les entourait.
Because they look so well preserved, but in reality they are in the order of 15,000 years old.
Et en fait, il pensait que s'ils étaient récents, ces ossements, tellement ils étaient bien conservés, alors qu'ils avaient 15 000 ans.
Oui, alors on va voir avec vous que la contamination, ça a été vraiment pendant très longtemps et encore aujourd'hui, d'ailleurs, une de vos obsessions absolues, heureusement, que vous avez pu résoudre en installant une salle blanche à l'Institut de Leipzig. Alors en 1993, Svante Paabo, vous êtes en poste à Munich et vous allez être appelé pour étudier un personnage connu du monde entier qui s'appelle Ötzi et qui, lui, était en train de dormir, conservé dans les glaces entre l'Autriche et l'Italie. Son état de conservation était absolument exceptionnelle. C'est la première fois d'ailleurs que vous avez travaillé sur du matériel humain aussi ancien.
Oui, à l'époque, c'était le plus ancien matériel humain sur lequel on ait travaillé et on espérait qu'il ait été préservé parce que pendant 5300 ans, il était resté dans la glace, dans un glacier des Alpes.
In a way, the results were disappointing
because d'une certaine façon, on a été déçus par les résultats, car il s'est avéré qu'en fait, il y avait très peu d'ADN dans ces vestiges,
DNA
dans ces restes. On a trouvé
one
du matériel génétique en provenance de deux individus. L'un de ces matériels était dégradé en fragments plus courts que l'autre.
Endogenous DNA from Ötzi.
Et on s'est donc dit qu'il s'agissait de l'ancien ADN endogène de Ötzi. Mais la technique nous limitait à ne pouvoir étudier encore que l'ADN mitochondrial. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de copies par cellule, donc on a plus de chances de le cartographier que des fragments aient survécu, surtout qu'on les détecte. Mais c'est une minuscule partie du génome et qui ne se transmet que par la mère, et donc ça ne nous transmet qu'une très faible partie de notre bagage patrimoine génétique.
Mais ça a été un déclencheur quand même pour vous, Ötzi, Svante Paabo, ça vous a donné envie à l'époque de vous intéresser à des espèces humaines beaucoup plus lointaines.
It was, if you like, I was always a sort of zoologist against my will. My heart was always to study human
Mais en fait, j'ai toujours dû aller contre ma volonté. J'avais envie d'étudier l'évolution humaine, mais étant donné qu'il y avait cet obstacle considérable, celui du risque de contamination, c'est ça qui m'a orienté vers l'étude des animaux anciens archaïques. Et c'est après avoir étudié Ötzi ou aussi des restes humains d'Amérindiens trouvés sur le sol américain, une fois qu'on a eu surmonté ou du moins qu'on pouvait maîtriser mieux le risque de contamination, qu'on puisse aboutir, vous l'avez mentionné, grâce à ces salles blanches, vraiment bloquer toute contamination qui nous avait entravés dans notre travail jusqu'au milieu des années 90.
Svante Paabo, vous êtes notre invité cet après-midi dans la Tête au Carré pour cette conversation autour de votre livre « Néandertal à la recherche des génomes perdus » et qui sort « Au lien qui libère ».
J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné.
Mansfieldy avec Bleu Lagon sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Voilà, on est très heureux d'accueillir Svante Paabo, qui est généticien évolutionniste et qui publie Au lien qui libère, Néandertal à la recherche des génomes perdus. C'est un livre dans lequel donc vous revenez sur l'ensemble de votre parcours, Svante Paabo, et qui, par certains points, est assez étonnant parce que vous livrez des choses assez intimes aussi de votre vie. Vous évoquez par exemple votre bisexualité, ce qui est plutôt étonnant de la part d'un scientifique. On ne s'attend pas forcément à avoir des informations sur la question. Ça a été naturel pour vous d'en parler dans cet ouvrage?
Well, the history of the book is really a little bit that I was talked into making this book.
En fait, que je vous dise, on m'a convaincu d'écrire ce livre. C'est un agent littéraire à New York qui m'a abordé. Et j'avais commencé à écrire un ouvrage plutôt scientifique, aride, que j'ai trouvé moi-même très ennuyeux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'y trouve plaisir. Alors, je vais me dire que je vais écrire ce livre pour mes enfants. Comme ça, dans 20 ans, ils pourront le lire et savoir qui était leur père. Et puis j'ai oublié qu'il y aurait un lectorat plus large que ma famille. Donc c'est devenu un livre plus personnel, mais qui, bien sûr, relate ma quête du génome. Mais j'ai aussi parlé de choses plus extérieures, de ma vie personnelle, mais qui ont influé sur mon parcours scientifique.
Ouais. Et donc vous ne le regrettez absolument pas aujourd'hui, évidemment, puisque ça ne serait pas dans ces pages de ce livre. Mais c'est vrai que c'est plutôt étonnant de la part d'un chercheur aussi de votre envergure.
I don't know. I think that it's also perhaps quite valuable to see that science is done by quite normal.
Oui, je ne sais pas, mais je crois que ça peut être intéressant de savoir que la science est pratiquée par des êtres humains comme les autres et qui connaissent les heures et malheurs des autres humains.
Vous aviez en tout cas une idée en tête, Svante Paabo, c'était éclairer l'histoire de l'humanité malgré les problèmes de contamination, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure des échantillons, parce que très vite, en fait, vous êtes aperçu que des scientifiques qui pourtant avaient publié dans des revues très prestigieuse, s'était trompée à cause de ce problème de contamination des échantillons.
Yes, and that is and was a very big issue.
Oui, c'était le gros problème. Même le premier séquençage que j'ai publié sur les momies égyptiennes, eh bien, rétrospectivement, j'ai compris qu'il s'agissait d'un phénomène de contamination par de l'ADN moderne. Et à l'époque, je travaillais dans un labo normal. Je n'avais pas pris la mesure de la gravité du problème de la contamination. Et puis, étape par étape, on a pris conscience du problème, du nombre de précautions à prendre, très rigoureuses. Et comme je le décris dans le livre, souvent on éprouvait une grande frustration, on se débattait pour être rigoureux. Et comme vous le mentionnez, c'est vrai qu'on voyait des articles publiés dans des revues très prestigieuses qui présentaient des résultats, mais qui visiblement étaient faussés par une contamination. Donc, à un moment donné, on s'est demandé si on devait être les gendarmes de la discipline et rappeler les gens à l'ordre. On s'est permis de le faire à certaines occasions. Par exemple, les scientifiques qui avaient prétendu publier le séquençage des dinosaures. Et puis, à un autre moment, enfin, après, on s'est dit, ben non, c'est pas à nous de faire la police. Nous, on va continuer à tracer notre route, à faire notre recherche. Ouais. Tant pis.
Et donc, en vous offrant une salle blanche, au moment où vous avez créé l'Institut de Leipzig, l'Institut Max Planck, ça a été vraiment pour vous absolument essentiel. Vous aviez cette obsession, en tout cas.
Yes, so it's actually turns out to be very essential to work under very clean conditions.
Oui, c'est essentiel de travailler dans des conditions quasiment stériles. Et le laboratoire, oui, c'est une salle blanche.
In the computer industry,
un petit peu comme là où on produit, où on fabrique les puces informatiques. Vous savez qu'il ne faut pas la moindre particule de poussière. Nous utilisons aussi des rayonnements ultraviolets pour détruire l'ADN moderne qui pourrait se trouver là. On lave toute l'instrumentation avec de l'eau de Javel, on s'équipe comme des cosmonautes pour travailler dans ce labo, et on ne peut pas passer, enfin il y a tout un circuit pour entrer aussi propre, aussi stérile que possible, parce que dans les autres salles qui ne sont pas des salles blanches, ben, il y a beaucoup de fragments d'ADN qui traînent partout là où on travaille. Donc
Alors Néandertal arrive évidemment dans ce parcours, vous le disiez tout à l'heure, c'est probablement l'ancêtre le plus intéressant pour étudier aussi nos propres origines d'hommes modernes. Et vous commencez au fond à étudier Néandertal quand même à cette époque pas si lointaine où il a une réputation absolument épouvantable. C'est-à-dire que pour les paléontologues, Néandertal n'était qu'une brute épaisse au fond. Hein.
Well... I always somehow have the feeling that we project a lot of things on
Neanderthals. Je crois qu'on projette beaucoup de choses sur l'homme de Néandertal. J'ai presque envie de dire que ce qu'on en dit de lui, la manière dont elle le voit, ça en dit davantage sur nous-mêmes que sur les Néandertaliens. Mais depuis, l'image des Néandertaliens s'est améliorée, a beaucoup changé. Et je crois qu'ils ont un visage un peu plus humain. D'autant que l'on sait que ce sont, ils comptent parmi nos ancêtres. Et si vos racines sont en Europe ou en Asie, enfin en Eurasie et dans le reste du monde, eh bien forcément, vous transportez un petit peu de l'homme de Néandertal, de son patrimoine génétique en vous.
Néandertal en nous, justement, c'est un documentaire réalisé pour Arte qui est sorti en 2012.
Récemment, l'un des crânes retrouvés à Krapina a fait l'objet de nouvelles analyses plus approfondies. Surprise! Il porte des marques qui évoquent aussi des comportements cultuels. Ces petits traits rapprochés témoignent d'un début de pensée symbolique chez l'homme de Néandertal. Une capacité qui fait aussi partie des caractéristiques de l'homme moderne.
Voilà, les débuts de la pensée de Néandertal. C'est un documentaire qui vous était consacré, Sven Tepebe. Et ça, c'est une des découvertes aussi, au fond, qui a réhabilité l'image de Néandertal.
I think to some extent, yes.
Dans une certaine mesure, oui.
It turns out that they, when they met modern humans, one recognized each other.
Lorsque les Néandertaliens ont rencontré les humains modernes, ils ont dû se reconnaître comme partenaires potentiels, car ils se sont accouplés, ils ont une descendance qui s'est incorporée dans parmi les humains modernes, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à transmettre leurs gènes chez des humains qui vivent aujourd'hui.
Le premier fragment sur lequel vous avez pu travailler, c'est ce bout d'humérus.
The very first Neanderthal bones we worked on.
Le tout premier ossement de Néandertal venait du spécimen d'origine qui avait été découvert en 1856 dans la grotte de la vallée de Néander et qui a donné son nom à ce groupe de préhumains. Et c'est vrai que c'était cet échantillon d'humérus, mais il nous fallait beaucoup de matériaux, un demi-gramme de tissu à l'époque, alors qu'aujourd'hui on peut travailler avec 15 mg de tissu. Ça nous suffit. Dans les années 90, nous avons réussi à reconstruire une partie de l'ADN mitochondrial du génome et on l'a trouvé très différent de l'ADN mitochondrial des humains contemporains, des humains d'aujourd'hui. Et on s'est mis à tester, à faire des tests d'ADN sur des individus à travers le monde et on est parvenu à la conclusion qu'aucun humain moderne ne possédait d'ADN mitochondrial, en tout cas celui qui est transmis par la mère.
Direction justement la vallée du Länder en Allemagne, d'où provient cette partie d'humérus, toujours extrait du même documentaire.
Nous sommes au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, près de Düsseldorf. La petite vallée de Neander, en allemand Neandertal, est bordée de hautes falaises calcaires qui sont exploitées pour produire du ciment. Durant l'été 1856, des ouvriers tombent sur des ossements auxquels ils ne prêtent pas attention. C'est le propriétaire de la carrière qui les ramasse, intrigué par leur aspect. Il les remet à l'instituteur local, Johann Fulroth, qui identifie les restes d'un homme préhistorique. C'est une révolution.
Voilà, dans cette vallée du Länder. Mais vous avez beaucoup voyagé, Sven Tepebe, justement, pour trouver ces échantillons néandertaliens. Vous êtes allé où exactement, alors ?
When we started then the effort to try to sequence entire Neanderthal genome in 2005.
Quand on a commencé à avoir ce grand projet en 2005 de séquencer l'intégralité du génome néandertalien, il s'agissait de trouver le meilleur os possible. Par là, on entendait qu'il possède un très fort pourcentage d'ADN dans l'os et qui proviennent des néandertaliens. Or, la plupart des os qu'on avait étudiés n'avaient qu'1% d'ADN de Néandertal. Le reste, c'était des poussière, des bactéries, les bactéries qui s'étaient déposées sur ces ossements dans la grotte déjà pendant centaines d'années. Mais en fait, une grotte en Croatie nous a fourni des ossements qui avaient été mieux préservés et qui comptaient 4% d'ADN néandertalien. C'était donc un matériau de choix. On a commencé à l'étudier et on a déployé des efforts considérables pour convaincre les autorités en Croatie de nous laisser échantillonner cet os et qu'on était les partenaires les plus idoines pour travailler là-dessus.
Allez, on y revient dans un instant avec le séquençage du génome donc de Néandertal et cette découverte également pour vous de cette part d'ADN que nous possédons justement autour de Néandertal. Vous êtes l'invité de la tête au carré Sven Tepebe et on se retrouve juste après David Bowie, The Man Who Sold the World.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Et c'est David Bowie sur France Inter avec la dernière partie de notre entretien exceptionnel avec Sven Tepebe, donc qui est avec nous à l'occasion de la sortie en France de son ouvrage Néandertal à la recherche des génomes perdus qui est publié aux éditions Les Liens qui libèrent et préfacé par notre camarade Jean-Claude Amezen. Pour poursuivre justement toutes ces études, ces recherches que vous avez menées sur Néandertal, Sven Tepebe, en 2006, donc vous le disiez, vous déclarez vouloir séquencer l'ADN de Néandertal, décryptage du génome de Néandertal. Et vous dites que c'est une période de montagne russe émotionnellement et scientifiquement. Pour quelle raison ?
So it was, of course, we had announced to the whole world that we were
oui,
going
d'abord,
to do this.
Nous avions annoncé notre projet au monde entier afin de lever des fonds, bien sûr, pour pouvoir effectuer
and
ces recherches.
We ran into trouble again with contamination.
Et on s'est heurté de nouveau à l'obstacle de la contamination. Donc les premiers millions de paires de bases qu'on a séquencées contenaient de l'ADN humain moderne. Rétrospectivement, c'était autour de 14%, enfin bien trop pour que ce soit acceptable. Et c'est vrai que je raconte ça dans le livre. Parfois je m'arrachais les cheveux, je m'énervais et je perdais espoir. Surtout, et j'étais découragée. Je me disais, bon, on ne va jamais y arriver, il faut le reconnaître à la face du monde. Mais je crois que ça a stimulé mon groupe d'amis scientifiques encore plus. Et au final, on a quand même pu aboutir à des mesures. On a pu quantifier la contamination et la réduire à moins de 1%. De manière à pouvoir cartographier un génome qui corresponde à quelque chose qu'on a fait en 2010.
Et dans cette volonté donc de cartographier, de séquencer le génome de Néandertal, il y avait cette autre question de savoir si effectivement un métissage avait eu lieu entre Néandertal et l'homme moderne. C'était la question subsidiaire au fond.
Yes, so one of the big questions was of course this question had the Neanderthals mixed.
C'est ça. Est-ce que les Néandertaliens s'étaient croisés, métissés avec les hommes modernes ? Ça, c'était une des toutes premières questions fondamentales que l'on se posait. Et on a fini par séquencer le génome de 5 humains modernes parce qu'on recherchait des signaux très subtils qui nous indiquent des similarités ou des différences au niveau de ces deux types de génomes. Donc on a commencé par séquencer nous-mêmes des génomes humains modernes de manière à avoir une échelle de comparaison logique, uniforme. Alors il y a eu beaucoup de discussions pour savoir, il nous fallait un spécimen européen, qu'est-ce qui fait l'Européen atypique, eh ben on a choisi un Français, figurez-vous. Après, on a choisi deux individus africains, un individu de Chine et un de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on a pu comparer les similarités entre le génome de Néandertalien avec les paires de bases de ces 5 spécimens modernes. Et à ma grande surprise, on s'est aperçu que les Européens présentaient plus de similarités avec le génome néandertalien que ce qu'on pouvait trouver en Afrique, où il n'y avait aucune trace, en fait. Et encore plus surprenant, lorsqu'on a comparé un spécimen, un humain chinois avec un humain africain, on aurait pu supposer qu'il n'aurait aucune trace du bagage génétique néandertalien. Eh bien si, en Chine, oui. Et les Papous aussi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui auraient pu penser que les néandertaliens étaient arrivés jusqu'à là-bas. On s'est creusé la tête pour savoir ce qui avait pu se passer. On a fini par aboutir à un travail, une conclusion qui n'était pas trop fausse, qui était assez juste. Les premiers humains modernes, lorsqu'ils sont sortis d'Afrique, ils ont dû passer, on pense, par le Moyen-Orient, où là, ils ont croisé les Néandertaliens. Les premiers humains modernes, donc, se sont métissés avec les Néandertaliens. Ils sont devenus les ancêtres de tous les humains, sauf ceux de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on peut penser qu'ils ont contribué à l'apport génétique à l'autre bout du monde, car je crois qu'après, ils ont continué à avancer, à coloniser avec ce bagage génétique.
Et tout ça, Svante Pebe, c'est l'année 2010, puisque vous révélez donc au monde le séquençage du génome de Néandertal, et puis évidemment cet ADN que nous possédons en nous. Et puis, ça ne suffit pas, parce qu'il y a également une nouvelle espèce que vous révélez grâce à l'ADN, c'est l'homme de Denisova, et c'est encore à vous qu'on le doit.
So, we were very lucky to get access to
oui, on a eu la grande chance de pouvoir mettre la main sur des ossements qui avaient été mis au jour en Sibérie du Sud par un collègue très estimé, et notamment un minuscule fragment de la dernière phalange du petit doigt d'une fillette. Minuscule. Donc, mais notre technique s'était si bien développée et l'état de conservation était excellente. Donc, pour la première fois, on a pu séquencer un génome de très bonne qualité, d'une qualité similaire à, bon, si on nous extrayait l'ADN, si on vous ou moi aujourd'hui serait de la même qualité. Et la plus grande surprise, c'était que ce n'était ni des humains modernes, ni des néandertaliens, mais un groupe d'humains. On hésite à prononcer le mot espèce, hein, on ne veut pas prendre position, on ne veut pas décréter que c'est une autre espèce. Mais en tout cas, c'était un groupe d'homininé qui partageait un ancêtre commun avec le néandertalien, mais il y a bien plus longtemps, quatre fois plus longtemps que l'embranchement qu'on trouve avec un ancêtre commun avec, par exemple, la population, les populations africaines aujourd'hui. Donc, ça remontait à beaucoup plus longtemps. Et avec nos collègues russes, on s'est creusé la tête, comment les appeler, et on leur a donné le nom de Denisoviens, puisque la grotte de Denisova, la grotte de Néandertal avait donné les Néandertaliens, grotte de Denisova, les Denisoviens. Mais c'était le premier groupe de préhumains ou d'hominines éteints et qu'on avait découvert, mais pas à partir de l'étude de fossiles, mais à partir de l'étude de l'ADN et du génome. C'est sans doute quelque chose qu'on va voir se développer d'ailleurs plus souvent à l'avenir.
Et c'est votre année miraculeuse 2010, Svante Paabo.
I don't know.
Pour l'instant.
Je ne sais pas si c'était miraculeux.
We were extremely surprised. Yes,
en tout cas, oui, c'était des surprises formidables.
Vous racontez également les coulisses au fond de ces révélations scientifiques avec toute la pression des journalistes, parce que ça c'est une réalité aussi lorsqu'on doit faire l'annonce au public de découvertes aussi importantes, aussi essentielles qui concernent les origines, nos origines humaines. Il faut aussi affronter toute la presse et les médias. Et vous avez un peu fui au fond. Vous étiez aux États-Unis au moment de l'annonce de Néandertal, c'est ça?
Yes.
Et ça a été une occasion pour vous de en tout cas, votre volonté d'échapper un peu à la presse, mais qui vous a très vite rattrapé quand même, hein, même sur place. Hein.
When this would appear in the journal Science, the Neanderthal genome.
Oui, la revue Science a publié le papier sur la cartographie du génome du néandertalien. Et j'avais prévu déjà des conférences aux États-Unis à la même époque. Donc, comme vous le dites, c'est vrai que je me suis sentie un peu protégée de l'effervescence de la presse, des journalistes, etc. Mais bon, il y a eu quand même un peu de tension là où je me trouvais. Et puis d'un autre côté, il y a les intégristes chrétiens qui ne croient pas en l'évolution, qui nous ont interpellés. D'ailleurs, on a dû me mettre en sécurité dans un autre hôtel et j'ai dû accepter d'être accompagné par des policiers pour donner ma conférence d'ailleurs.
Ouais. Et puis, dernière actualité en date, la plus récente au sujet de nos origines humaines, c'est la révélation d'une nouvelle espèce, Homo naledi, annoncée donc par des paléontologues d'Afrique du Sud. Vous allez être amené justement à étudier l'ADN d'Homo naledi, Svante Paabo?
We very much hope that we will be able to do that.
Écoutez, nous l'espérons. Oui, nous avons déjà été en contact avec ceux qui ont découvert ces restes humains archaïques. Ce sont des fossiles très intéressants. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu dater ces ossements. On ne sait pas quand ils remontent. J'en ai discuté avec mes collègues paléontologues et je crois que c'est un mélange de caractéristiques dont certaines semblent tout à fait modernes alors que d'autres paraissent absolument archaïques. Alors peut-être qu'il s'agit d'un embranchement de la lignée humaine qui est intervenue assez tôt. Mais on espère en tout cas qu'on pourra récupérer de l'ADN. C'est un peu comme l'Homo fiorensis d'Indonésie aussi.
Donc pour l'instant, pas vraiment de réponse sur son appartenance à un nouveau groupe humain ou peut-être aux Australopithèques plus anciens?
On ne pourrait répondre à cette question qu'à condition de pouvoir récupérer de l'ADN de ces ossements.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment, Svante Paabo? Quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre là aujourd'hui?
It's really two things that we go for. One is that we sort of
D'abord, on veut perfectionner encore cette technique pour pouvoir étudier des vestiges encore plus anciens et avec de l'ADN encore moins bien préservé que sur les restes néandertaliens. Il existe un site en Espagne, Cima del Hueso, où on trouve des restes d'homininés de 430 000 ans et on a réussi à récupérer un peu d'ADN et d'ADN mitochondrial, et on a récupéré aussi un petit peu d'ADN nucléaire. Il pourrait s'agir d'un ancêtre des Néandertals ou des Denisoviens, et on espère que nos résultats vont éclairer la question. Donc ça, c'est une direction de recherche. On veut arriver à remonter encore plus loin dans le passé. Et l'autre voie de recherche qui nous passionne, eh bien, ce sont les humains modernes, parce que dès lors qu'on a cartographié le génome néandertalien et des Denisoviens, on les compare avec celui des humains modernes et on voit les modifications qu'on porte ou qu'on vive. Mais, et on va comparer avec le génome des grands singes et d'autres animaux pour vraiment distinguer ce qui fait l'humain. Donc, on a plusieurs points génétiquement à vérifier. Cette liste, d'ailleurs, n'est pas très longue. Il y a environ 30 000 variantes génétiques qui nous intéressent et qui pourraient nous éclairer. Et pour les 10 ans qui viennent, le grand défi, c'est d'essayer de discriminer quels sont ces changements génétiques qui ont des répercussions fonctionnelles et qui nous expliquent l'histoire de l'homme moderne, ces bonds technologiques, l'art figuratif qui apparaît, le fait qu'on ait colonisé la planète entière, qu'on soit 7 milliards et qu'on arrive d'ailleurs à influencer la biosphère. Voilà, donc on cherche les clés de ces mystères dans le génome.
Et donc vous avez encore beaucoup de pages à écrire sur nos origines humaines, Sven Tepebe. Merci infiniment, on était vraiment très heureux de vous accueillir. Néandertal à la recherche des génomes perdus, c'est donc ce livre qui paraît traduit en français et préfacé par Jean-Claude Amezen au lien qui libère. Et merci à vous, Eve Der, pour la traduction que vous avez assurée pendant cet entretien. Merci Sven Tepebe.
Merci à vous.
Voilà, et cet entretien que vous pouvez retrouver sur le podcast de La Tête au Carré. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Affaires sensibles dans quelques instants. Une fois n'est pas coutume, vous revenez 10 ans en arrière.
Oui, on ne se greffe pas sur les anniversaires en principe, mais là, nous avons considéré que 10 ans après les émeutes en banlieue en 2005 et la mort des deux jeunes dans un transformateur électrique, valait la peine qu'on y revienne et on le fera avec notre invité Gwenaëlle Bourdon, journaliste au Parisien au moment des faits. Et auteur aussi d'un livre sur cette affaire.
Merci beaucoup à vous. Merci également à David Federman et Enzo Labori qui étaient à la technique. Demain, nous parlerons des chauves-souris dans l'émission. Et il est 15h sur France Inter.